France Culture.
Et les midis de culture, ça continue. Tout à l'heure, je recevrai Serge Lehmann et Yann Legendre. Ils sont les auteurs de la bande dessinée de science-fiction Dewey et ses sœurs. Mais tout de suite, c'est le point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie. Alors dans les années 80 et 90, un genre littéraire faisait fureur dans les cours de récré, les livres dont vous êtes le héros. Alors vous vous souvenez peut-être, ces livres qui demandent une participation active des lecteurs et permettent des histoires à issues multiples. Ces livres interactifs reviennent dans les librairies et tentent aujourd'hui de conquérir un public adulte plus large, au-delà des nostalgiques et des collectionneurs. Le retour des livres-jeux, c'est le dossier du Point Culture du jour. Fibre Tigre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la narration interactive, vous êtes auteur, créateur de jeux. Alors quand j'étais enfant, nous avions tous de ces livres dont vous êtes le héros, puis ils ont disparu des librairies. Et alors aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils reviennent, en tout cas à la marge, mais ils reviennent un peu. Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit historique de ces livres-jeux ?
Alors les livres dont vous êtes le héros, c'est une sous-catégorie de livres interactifs, mais qui est la plus populaire en France. Et qui nous vient d'Angleterre, voilà, et ça a été édité chez Gallimard avec d'ailleurs une très belle édition avec beaucoup de des très belles couvertures, parfois même supérieures à l'original, on va dire, et une très belle traduction aussi. Et parce que en fait, c'est de la littérature interactive, donc c'est compliqué de traduire, voilà. Et ça a eu un énorme engouement effectivement dans les années 80. C'est une époque dans les années 80 où les premières consoles de jeux vidéo arrivaient, mais les jeunes lisaient encore des livres jeunesse. Et en fait, c'était un peu la synthèse des deux. C'était un peu un jeu vidéo papier, d'une certaine façon. Puis après, effectivement, ça a un petit peu chuté, on va dire, milieu ou début des années 90. Et ça revient un petit peu.
Alors, est-ce que c'est pareil quand on parle de livres-jeux ou de livres interactifs sur une question de vocabulaire? Comment ça s'appelle, en fait, ces livres-là? Ou, en fait, c'est le lecteur qui, par ses choix, détermine finalement la suite de l'histoire?
Y a pas beaucoup de normalisation, c'est-à-dire souvent, alors est-ce que je m'adresse à une nostalgique qui dit « Ah, les livres dont vous êtes le héros », qui est devenu une tagline qu'on retrouve, un moment Citroën a fait la voiture dont vous êtes le héros par exemple.
Donc, mais « Livres dont vous êtes le héros », c'était le nom de la collection en fait de Gallimard, c'est un nom quoi.
C'est plus un slogan, parce que les Gallimard, ils avaient des sous-collections, par exemple il y avait les Défis Fantastiques qui étaient de la fantasy, il y avait Sorcellerie qui est une très bonne quadrilogie qui est destinée pour les adultes par exemple, mais il y avait ce slogan qui dit « Les livres dont vous êtes le héros », qui est passé dans la culture populaire, qui a été repris un petit peu, mais aujourd'hui ça a été un petit peu oublié, mais ça existe encore. Mais si on veut élargir en fait, « Les livres dont vous êtes le héros », c'est pas simplement du papier, c'est aujourd'hui la fiction interactive qui préexistait au livre dont vous êtes l'héros, qu'on voyait par exemple dans Raymond Queneau, l'Oulipo, c'est-à-dire quand Raymond Queneau fait le poème des petits pois, ben on a des renvois de paragraphes qui sont littéralement ceux utilisés par Ian Livingstone dans Le Sorcier de la Montagne de Feu. Donc ça préexiste à Livre dont vous êtes l'héros. Et aujourd'hui, l'industrie la plus conséquente dans le monde du loisir, qui est le jeu vidéo, c'est souvent ce qu'on appelle de la narration par embranchement. Donc ça s'apparente à des livres dont vous êtes l'héros, à part que c'est pas du papier, c'est du numérique.
Alors comment ça s'écrit ces livres-là ? Vous êtes aussi auteur de livres-jeux, parce que dans mon souvenir, ça se présentait avec des paragraphes, avec les paragraphes étaient numérotés, et puis selon qu'on voulait, je sais pas, que le héros parte à droite ou à gauche, il fallait aller au numéro paragraphe suivant. J'imagine que dans l'écriture dramaturgique, c'est une écriture un peu particulière.
C'est un peu compliqué, mais en gros, effectivement, donc il y a des renvois de paragraphes, c'est-à-dire que on vous propose un choix, voulez-vous aller à gauche ou à droite ? Et en fonction de ça, vous allez au paragraphe 300 ou 400. Il y a quand même des techniques un peu plus évoluées que ça, c'est-à-dire que parfois vous allez avoir un code secret, et si vous avez ce code secret, et si vous arrivez au 300, vous pouvez enlever 20 à ce paragraphe, et vous découvrez un paragraphe secret qui vous permet d'ouvrir une porte cachée, etc. Donc ça va quand même très très loin dans la manipulation algorithmique. Et en fait, ça fait des embranchements, une sorte d'arbre, vous voyez, des graphes, on peut imaginer si vous écrivez une sorte de solution. Et ces graphes, en fait, ils peuvent soutenir une narration. C'est-à-dire que vous avez des graphes qui vous donnent beaucoup de liberté et vous êtes un peu en mode exploration. Vous avez des graphes où vous allez mourir à chaque recoin de labyrinthe et ça va mettre une tension chez vous. Donc c'est une façon de soutenir le récit d'une façon un petit peu différente, qui n'est pas encore tout à fait explorée. Et c'est assez intéressant. Il y a un paradoxe aussi, on appelle le paradoxe du one true pass. Donc le one true pass, ça veut dire que vous avez que une seule solution possible, viable dans le jeu. C'est-à-dire que dès que vous prenez une mauvaise décision, vous allez mourir. Et en fait, souvent, les livres One True Pass, ils ont un très bon récit. Parce qu'en fait, le livre interactif va se résumer à un livre linéaire, finalement. Un livre linéaire avec des options de mourir de temps en temps. Et effectivement, plus le livre est linéaire, plus le récit est maîtrisé. Et le récit est moins maîtrisé quand on donne beaucoup de liberté aux joueurs. C'est un paradoxe. mais ça dépend si vous cherchez un bon récit, un bon livre ou une bonne expérience interactive. Mais il y a deux collections en particulier qui sont très chères aux yeux des joueurs, qui ont très très bien marché, qui sont L'eau solitaire et Sorcellerie, qui sont en plusieurs volumes. Donc on va prendre Sorcellerie qui a 4 volumes. Si vous faites des choix au premier volume, vous décidez d'aller à gauche, vous allez trouver un certain type de trésor, etc. Ça va avoir des conséquences au quatrième volume. Donc effectivement, c'est, on va dire, cette idée des choix qui comptent, même dans les jeux vidéo, parfois on n'a pas ça. Donc c'est assez agréable.
Alors, on parlait du lectorat et du public. Moi, j'évoquais ces livres jeunesse des années 80 et 90. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ces livres jeux sont à destination uniquement de ce jeune public-là? Ou est-ce que, moi, j'ai l'impression qu'il s'élargit et que ça touche aujourd'hui même les jeunes adultes?
En fait, aujourd'hui, le marché, il est séparé en trois. Il y a un marché de collectionneurs, donc, et parfois, malheureusement, les pièces... je vous ai parlé de L'eau solitaire, les L'eau solitaire première édition, malheureusement, ils montent parfois très très cher sur Internet, donc c'est pas pour les enfants du tout, ce type de produit. Ce qui est bien, c'est un peu comme le marché de la poésie, quand vous sortez un livre dont vous êtes l'héros, vous êtes sûr d'en vendre à tous les collectionneurs. Après, est-ce que vous allez en vendre aux autres personnes? Ça, c'est un point d'interrogation. Ensuite, il y a un marché de nostalgie. Il y a des gens, et comme vous, qui disent « Mais c'est trop cool, c'était trop cool, j'ai trop de bons souvenirs. » Donc, ils vont peut-être passer à la Fnac et acheter une nouvelle édition de La Créature venue du chaos, et vous allez passer un très bon moment. Voilà. Alors, replongeons dans la nostalgie. Bon, c'est un marché, effectivement, qui a ses limites, mais qui est intéressant. Et enfin, effectivement, les livres dont vous êtes l'euro, ça reste essentiellement, il y a des exceptions, alors pour en citer une, Sorcellerie que je cite depuis toujours, à la base c'était un peu écrit pour les adultes, il y a des illustrations qui sont pas du tout pour les enfants, des illustrations un peu horribles, parce que il faut voir aussi que ça vient de la culture punk, les livres dont vous êtes l'euro. Il y avait des illustrations un petit peu effrayantes, et quand notamment le clergé a commencé à dire que ce sont des livres diaboliques en Angleterre, ça a fait vendre vraiment beaucoup les livres, c'était vraiment très très bon, c'était une contre-culture à l'époque, et ça reste, donc à part cette exception de quelques collections comme Sorcellerie, ça reste destiné aux enfants, mais c'est une expérience aussi, je dis souvent, il faut avoir une affinité avec le français et les maths, parce que il y a ce côté de paragraphe, de calcul, de réflexion, de labyrinthe pour les maths, et il faut aimer lire donc en français. Donc c'est un peu les bons élèves de la classe qui lisent ça en général.
Dernière question avant de clôturer cet entretien, Fibre Tigre. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même un engouement nouveau pour cette forme de livre? Est-ce qu'il y a par exemple des nouveaux éditeurs et de nouveaux auteurs?
Alors, on est sur un marché du livre quand même qui va pas très bien en ce moment. Les gens achètent moins de livres et ils en lisent beaucoup moins. Cela ayant été dit, tout comme la poésie, il y a des maisons d'édition, oui, qui nouvelles en France. Donc il y a Gallimard qui domine et qui prend plutôt bien soin de son patrimoine de livres dont vous êtes l'euro historique. Mais on a alors deux têtes, il y en a peut-être trois, je suis désolé. Il y a deux maisons d'édition françaises qui sont très vivaces, qui sont Alconost et Posidonia. Et Alconost, par exemple, sort des livres de Jonathan Green, très très intéressants, très beau façonnage, très beau livre, vraiment des beaux produits. Et Posidonia, récemment, a gagné... le prix du meilleur livre dont vous êtes l'héros en rééditant un grand classique d'un très grand auteur français qui s'appelle Pierre Rosenthal. Et ce livre s'appelle Le Prisonnier, c'est tiré de la série Le Prisonnier. Et c'est un livre dont l'architecture technique est très intéressante.
Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Fibre Tigre.
Merci beaucoup.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, aux États-Unis, un procès historique contre l'IA se prépare.
Oui, le tribunal fédéral de Californie lance une procédure à l'encontre de la firme américaine Anthropic et de son logiciel d'intelligence artificielle baptisé Claude AI. Concrètement, il est reproché à l'entreprise d'avoir piraté 7 millions de livres pour alimenter son logiciel. Le juge a déjà rendu un premier avis en déclarant qu'il était légal d'entraîner une IA avec un livre si ce dernier avait été acquis légalement. Mais ce qui est préjudiciable, c'est le téléchargement et le stockage illégal de ces millions d'ouvrages. Le procès débutera en décembre prochain et apparaît déjà outre-Atlantique comme un événement important, alors que les débats sur le droit d'auteur à l'heure de l'utilisation de l'IA se multiplient à travers le monde.
Et pour finir, bande dessinée, le nombre de gros tirages se réduit un peu plus à chaque nouvelle rentrée littéraire.
Oui, alors que les fans attendent avec impatience les sorties du nouvel Astérix prévu pour octobre ou du prochain Largo Winch en novembre, force est de constater depuis quelques années une baisse importante des gros tirages en bande dessinée. En cette rentrée 2025, seuls 16 titres sont tirés à plus de 100 000 exemplaires, alors qu'il y en avait 20 l'an dernier et pas moins de 30 en 2023. Pour le magazine Livre Hebdo, cette baisse de tirage s'explique par deux raisons. D'abord, la souplesse toujours plus grande des éditeurs à faire réimprimer rapidement en cas de succès en librairie et l'érosion des grandes séries patrimoniales qui assurent traditionnellement un tirage important.
Merci Marie et on se retrouve demain.
À demain
pour d'autres actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.